c'est plus celui-là. Ah.
Where's North from here?
Pas ça du tout.
Un bon club sandwich.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute d'InfoClub Sandwich, votre émission d'actualité locale et associative. Et comme vous l'avez entendu, on n'a toujours pas choisi de jingle, on est encore en train de tâtonner, hein. Aline, tu rigoles.
Ah, c'est un vrai plaisir. En plus, on en a deux, c'est juste qu'il faut choisir.
Voilà, donc on vous laisse encore un petit peu le suspense.
Non, c'est la dernière journée, lundi, il y a un nouveau.
Oui, on aura enfin décidé, promis. Alors, comme vous l'avez entendu, Aline est avec moi en ce vendredi 16 janvier, ensoleillé, on peut le dire,
oui.
pour vous proposer de terminer la semaine sur un sujet santé. Nous avons déjà parlé de santé mentale hier et c'est une thématique qui nous tient à cœur. Alors, je tiens à vous rappeler qu'un webinaire sur le projet territorial de la santé mentale de la Somme est organisé ce mardi 27 janvier à midi. On en a discuté hier dans l'InfoClub Sandwich. Pour retrouver le lien de l'événement, c'est justement dans l'article de cette émission du jeudi 15 janvier. Pour continuer de parler santé mentale, Aline, tu reçois une psychologue du SSE, Service Santé Étudiant, Valentine Merli. Nous, on se retrouve en deuxième partie d'émission pour écouter la chronique de Margot sur le Blue Monday. A tout de suite, en attendant, Aline, c'est à toi.
Merci beaucoup. Et justement, et évidemment, on va s'intéresser donc à la santé mentale, mais plus particulièrement à celle des étudiants et étudiantes. Il y aura peut-être quelques sujets qui peuvent heurter la sensibilité de personnes, donc on vous prévient en amont. Du coup, bonjour, premièrement Valentine.
Bonjour Aline.
On va commencer très simplement. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce qu'est le SSE ?
Alors le SSE, Service de Santé Universitaire des Étudiants, c'est un lieu qui permet d'accueillir tous les étudiants de l'UPJV, qui en matière de santé physique et de santé mentale.
Et du coup, en termes de santé mentale, sur le plan psychologique, comment le SSE accompagne ? Qu'est-ce que le SSE propose, en fait ?
Alors, le SSE, il propose d'abord des entretiens d'écoute et d'orientation qui sont réalisés par les infirmières. C'est déjà un premier espace, un premier temps pour recevoir les étudiants qui sont en demande de justement échanger autour de leur santé mentale. Et en fonction, ils peuvent être dirigés vers le professionnel qui est adapté, donc soit les psychologues, soit aussi une conseillère conjugale et familiale pour tout ce qui va être vraiment les demandes qui sont centrées exclusivement autour du couple, de la famille, de tout ce qui relève d'une conseillère conjugale et familiale.
Et du coup, toi, ça fait combien de temps que tu es psychologue là-bas ?
Moi, ça fait un peu plus d'un an déjà.
Ok. Vous êtes plusieurs en psychologue là-bas ?
Alors, on est deux psychologues cliniciennes. On a également une neuropsychologue qui est là à temps partiel sur le SSE et qui permet un accompagnement vraiment centré autour des troubles neurodéveloppementaux, tout ce qui va être TSA ou aussi les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité.
Est-ce que les étudiants et étudiantes connaissent bien ces services proposés par le SSE et aussi sur le plan psychologique, enfin, tous ces services-là en plus, selon toi ?
Au vu des demandes, oui. Après, je ne sais pas, tout dépend des UFR, tout dépend aussi de la sensibilité de chacun à aller voir un professionnel. Il y a des personnes qui n'ont jamais été au courant et des personnes qui ont été au courant. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous, on essaye d'intervenir de plus en plus dès la rentrée dans chaque UFR pour venir se présenter et montrer ce qu'il y a de possible et de disponible pour les étudiants.
Et c'est quoi les conditions d'accueil pour les étudiants et étudiantes ? C'est-à-dire qu'on peut arriver là-bas pendant les horaires d'ouverture ? Comment ça se passe ? Il faut prendre rendez-vous, par exemple, pour toi ?
Oui, alors effectivement, pour chaque professionnel, il faut prendre rendez-vous. Alors la prise de rendez-vous peut se faire, bien sûr, en se présentant à l'accueil et en demandant avoir un professionnel, avoir un rendez-vous. Elle peut aussi se faire par téléphone et via Doctolib, ce qu'il y a de plus simple. Pour nous, les psychologues, on peut nous rencontrer exclusivement qu'après avoir rencontré un premier professionnel, donc la plupart du temps, l'infirmière qui fait l'entretien d'écoute et d'orientation, ou ça peut être si l'étudiant a rencontré un des médecins et qu'il s'avère nécessaire de voir une psychologue.
Et tu en parlais un petit peu plus tôt, tu as parlé de demandes. Et justement, j'ai une petite question par rapport à ça. Quelles sont les demandes psychologiques les plus fréquentes que toi, tu rencontres chez les étudiants et étudiantes?
Alors, franchement, il y en a énormément et elles sont toutes plus ou moins différentes. Il y a vraiment une échelle, une graduation entre, sans minimiser, bien sûr, une période de stress plus ou moins légère parce que il y a des partiels, parce que c'est compliqué, et puis on va jusque aux troubles anxieux, aux troubles dépressifs. On a aussi beaucoup de demandes qui concernent des vécus de violence sexuelle, intrafamiliale, donc aussi beaucoup de demandes qui sont en lien avec des traumas qui ont été plus ou moins répétés.
Et est-ce que toi, tu as du temps pour répondre à toutes ces demandes, par exemple le suivi psychologique qui peut être sur plusieurs séances ?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a compris qu'il y avait une véritable demande en matière de santé mentale, qu'il y a des listes d'attente qui sont énormes un peu partout. Donc, il était hyper important pour le SSE, qui de base est un lieu plutôt de prévention, de pouvoir aussi accompagner au niveau psy. Et donc, nous, on peut les recevoir sur maximum 10 séances. Donc, on ne fait pas d'accompagnement à long terme, mais c'est déjà une première porte d'entrée. Et en 10 séances, on peut déjà écouter, accompagner, mettre en place des outils aussi pour que les étudiants puissent commencer à aller mieux.
Et est-ce que toi, depuis ton arrivée au SSE, tu as vu une évolution, une demande un peu plus grande par rapport aux étudiants, aux étudiantes, chez les étudiants et étudiantes ?
Alors, vu que ça fait qu'un an que je suis là, j'ai pas pu voir une vraie évolution. Par contre, mes collègues qui sont sur la structure depuis plusieurs années nous indiquent vraiment que les demandes ont évolué, dans le sens où avant, le service de santé accueillait vraiment pour des questions de stress en lien avec les études, et qu'aujourd'hui, il y a des problématiques qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus profondes et qui demandent beaucoup plus de temps et d'accompagnement. Donc effectivement, moi, je l'ai vu en arrivant. Je m'attendais à faire quelque chose de plutôt soft, on va dire. Et en fait, non, on est vraiment dans une clinique qui est assez difficile, avec des parcours de vie aussi qui sont très difficiles et qui ne sont pas à minimiser comme on peut l'entendre parfois.
Oui. Et justement, si on parle un peu de chiffres, justement pour ne pas minimiser ça, selon le baromètre de la santé mentale, c'est un sondage réalisé en septembre 2025 par OpinionWay pour le média L'Étudiant. Seuls 45% des étudiants se déclarent aujourd'hui en bonne santé mentale. Est-ce que ce chiffre te surprend, ou est-ce qu'il correspond en fait à ce que tu vois au SSE ?
Alors moi, je suis un peu biaisée parce que forcément, je ne vois que des gens qui vont mal. Sinon, ils ne viendraient pas. Mais effectivement, je trouve ça assez cohérent avec ce qui est évoqué, ou même des étudiants que je reçois qui sont surpris de dire « mais en fait, je ne vois pas de personnes autour de moi qui vont forcément très bien ». Donc en fait, non, je trouve que ces chiffres, ils sont très évocateurs de l'état actuel de la santé mentale des étudiants.
Il y a un autre chiffre qui m'a interpellée, c'est 38% des étudiants disent avoir envisagé d'abandonner leurs études pour des raisons liées à leur santé mentale. Est-ce que toi, tu vois au SSE un lien direct entre souffrance psychologique et décrochage universitaire ?
Bien sûr, parce que les études universitaires, c'est extrêmement prenant en matière de temps, en matière d'énergie physique et psychique. Donc forcément, quand on est extrêmement parasité par des symptômes de souffrance, c'est extrêmement compliqué de pouvoir s'investir énormément dans les études, un peu comme nous, hein, quand on n'est pas en mesure de faire notre travail, on est en arrêt de travail, sauf que les étudiants ne peuvent pas vraiment être en arrêt de travail, donc c'est pas du tout étonnant en fait qu'il y ait du décrochage scolaire. Mmh.
On va justement parler un petit peu de prévention. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu des signaux d'alerte précoces qui pourraient alerter les étudiants et étudiantes, mais aussi leurs proches.
Alors, il n'y a pas un signal d'alerte. C'est vraiment une modification de son état, mais d'une manière prolongée, parce qu'il faut faire attention là-dessus. On traverse tous des périodes forcément qui sont compliqués en fonction de la vie, des événements, des périodes. Mais si on voit que sur plusieurs semaines, plein de choses ont changé chez nous, notre humeur, elle est plus pareille, on a majoritairement des idées négatives, notre sommeil, il est très perturbé, on a du mal à manger, l'appétit a bougé aussi, ou au contraire, on trouve refuge dans l'alimentation. Ça peut être aussi, on n'arrive plus à faire les tâches quotidiennes, on n'arrive plus à s'investir dans son travail, on se replie aussi sur soi, on n'arrive plus à prendre plaisir dans les activités qui auparavant nous faisaient plaisir. Tout ça, c'est des signaux d'alerte qui peuvent nous dire, oula, attention, il y a peut-être quelque chose qui est compliqué pour moi en ce moment, et voilà.
Est-ce que, du coup, après ces signaux d'alerte, est-ce que tu penses que la parole est un peu plus libérée sur la santé mentale parce qu'on en parle un peu plus, en tout cas, ces dernières années. Est-ce que toi, tu sens une parole qui est plus libérée chez les étudiants et étudiantes ?
Alors oui, effectivement, je pense qu'il y a aussi ça qui explique les chiffres, c'est que les étudiants sont davantage sensibilisés à la santé mentale et justement à ces signaux d'alerte que les générations précédentes. Et ils sont aussi plus sensibilisés au fait d'aller en parler. Donc ça, ça c'est clair. Après, je trouve qu'il reste quand même une... Moi, ce que je vois beaucoup en consultation, c'est quand même un sentiment de ne pas être légitime de venir en parler avec l'impression que justement, il y a toujours pire qu'eux. Donc c'est un peu des deux.
C'est un peu des deux, oui. on va passer un petit peu au moment conseil. Concrètement, quel conseil tu pourrais donner aux étudiants et étudiantes qui commence à avoir ses premiers signaux d'alerte et qui commence à ressentir du mal-être ou des troubles du comportement, quelque chose comme ça.
Alors, ça va paraître un peu bête, mais ça reste fondamental. C'est voilà, essayer de maintenir ou d'entretenir, quand c'est encore possible, tout ce qui va être l'alimentation, le sommeil, les activités plaisantes qui sont ressources et qui nous font du bien et qui nous aident à retrouver de l'énergie et des émotions positives. Ça va être de l'activité physique aussi, se mettre en mouvement. Et puis, des fois, ce n'est pas forcément possible ou ce n'est plus possible. Et surtout, c'est, moi, je dirais, ne pas rester seul. Avec ça, vraiment en parler. Si possible, à des personnes de notre entourage qui sont bienveillantes et qui peuvent être à l'écoute. Mais ça peut être aussi un enseignant, enfin voilà, toute personne en qui on a confiance. Voilà, c'est vraiment les éléments qui sont les plus importants à mon avis.
Et toi, dans un monde parfait, tu voudrais... qu'est-ce que tu voudrais ? Qu'est-ce qui te manque dans ton métier aujourd'hui ? Et qu'est-ce que tu voudrais, par exemple, du temps ou un peu plus de choses que j'aimerais bien savoir, ce qui pourrait améliorer, selon toi, la santé mentale des étudiants, ce que toi, tu pourrais apporter en trouvant une amélioration.
Je pense qu'effectivement, le temps, ce serait quand même génial. Le temps, les éléments financiers aussi, ça me paraît être la base, mais vraiment, vraiment le temps de pouvoir recevoir. Parce qu'il y a beaucoup de demandes, donc forcément, il faut aussi qu'on aille vite. Donc, il y a ça aussi qui fait qu'on est aussi pressé par le temps, c'est le nombre de demandes. Mais si on pouvait prendre le temps avec chacun d'accompagner dans la durée, vraiment en collant aux besoins des étudiants, ça, ce serait le rêve.
Est-ce qu'il y a une longue liste d'attente, du coup, pour les étudiants et étudiantes ?
Alors, ça dépend. Là encore, ça va. On est à peu près à un mois et demi d'attente. Ce qui peut paraître énorme, mais qui, comparé à d'autres structures, est rien du tout. Très clairement.
D'accord, ok. Merci beaucoup, Valentine. Est-ce que tu aurais peut-être là où on pourrait trouver les horaires d'ouverture ? Est-ce que c'est tout simplement sur le site de l'université ?
Alors oui, vous l'avez sur le site de l'université, vous avez sur le Doctolib, vous tapez sur internet SSE de l'UPJV, vous avez les horaires, les contacts, comment prendre rendez-vous aussi via Doctolib.
Merci beaucoup, Valentine.
Avec plaisir.
tes bras. Le pouvoir de tes mains m'éclate. Je grimpe au ciel avec hâte. Le pouvoir de ton courage. Je m'enfuis. Étoiles détournent leur visage, l'aube en pas à travers la nuit. C'est toi, mon fils, tu es la
C'était Riffle, un titre du groupe The Last Dinner Party. Vous êtes toujours sur le 87.7 FM à l'écoute d'Info Club Sandwich. On a parlé en première partie d'émission de santé mentale étudiante et Aline, tu avais quelque chose à ajouter.
Oui, je voulais préciser que le SSE, c'est un service de médecine préventive gratuite et confidentiel pour les étudiants et étudiantes. C'était important de le dire.
Et voilà. Merci Aline. et on retrouvera toutes les informations de toute façon dans l'article du jour. Alors maintenant, je vous propose d'écouter la chronique de Margot sur un événement dont on parle souvent en janvier. J'ai nommé le Blue Monday.
Bonjour à tous. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais savez-vous ce qu'est réellement le Blue Monday ? Une chanson de New Order est le jour désigné comme étant le plus déprimant de l'année. Il tombe sur le lundi 19 janvier 2026. Alors après une interview plutôt dans l'émission sur la prévention de la santé mentale, j'ai voulu décrypter tout ça. Ça tombe toujours sur le quatrième lundi du mois de janvier. C'est une expression qui vient de « feel blue » en anglais, donc se sentir un peu déprimé. Comme le lundi, c'est le premier jour de la semaine, qu'il est souvent associé à la déprime et à la déception de la fin du week-end, « Blue Monday », ça marche super bien. La théorie, basée sur une équation jamais vue auparavant, paraît sortir du chapeau d'un charlatan et calcule différentes variantes, à savoir la météo, les dettes, le salaire, la baisse de motivation, la sensation d'avoir besoin de changement, le temps depuis Noël et enfin le temps depuis lequel vous ne réalisez pas vos promesses de fin d'année. Alors ça fait beaucoup et surtout si vous observez bien l'équation, on comprend vite que ce n'est en réalité qu'une grande blague, certains facteurs étant inquantifiables. Créé en 2005 par le prétendu psychologue Cliff Arnall, il était en fait payé par l'agence de voyage Sky Travel. Bon, du coup, apprendre ça, ça m'a déprimé encore plus que ce que je voyais couler par la fenêtre. Avant de vraiment me renseigner sur le Blue Monday, je croyais que c'était le résultat d'une véritable étude qui déterminait le jour de l'année où l'on comptait le plus de tentatives et suicides, de démissions, d'arrêts maladie, etc. Mais non, c'était purement commercial. Alors, pour nuancer un peu mes propos, il est vrai que le mois de janvier est un mois rude pour tous. La météo et le porte-monnaie ne sont pas au rendez-vous. Les journées sont encore courtes et nous gardons un sentiment de vide intersidéral après les fêtes de fin d'année. Donc, il est inutile de dire que Cliff Arnall est un sombre idiot puisqu'il n'avait pas complètement tort. Puis, j'ai encore approfondi mes recherches avant de lire que même lui milite pour l'abolition du Blue Monday. Et là, je me suis dit, ok, le gars a voulu retrouver sa dignité de scientifique. Mais non, même pas. En fait, c'est pour une autre compagnie de voyage, une campagne sponsorisée par le comité touristique des îles Canaries. Sans commentaire. Donc tout un mythe s'est écroulé pour moi. Je pensais que c'était aussi en partie lié à la chanson Blue Monday de New Order, sortie en 1987, qui est une de mes chansons préférées, dont j'ai parlé plus tôt dans ma chronique. Et en tant que grande fan, du coup, j'étais un peu déçue et aussi vachement honteuse. Enfin, je ne pouvais pas savoir. Et après, c'est un peu vrai quand même. Il n'a pas inventé un truc complètement faux. Et forcément, puisque ça fonctionne bien et qu'il fallait vendre à l'époque. Mais en plus de ça, maintenant, il y a l'effet de croyance collective. Donc on s'en convainc un peu les uns les autres, à force d'en entendre parler partout depuis plus de 20 ans, on ne se pose parfois même plus la question. Donc ce Blue Monday est très controversé, et de nombreux chercheurs contestent cette théorie, expliquant que ce genre de campagne publicitaire nuise à la compréhension du public de ce qu'est réellement la dépression. Ça serait trop facile de parler d'un jour plus déprimant que les autres, d'ailleurs, et cette maladie ne se résume pas au mauvais temps, à des problèmes de dette ou de baisse de salaire, et encore moins à la fin des fêtes de Noël. En attendant, je continuerai d'écouter Blue Monday de New Order avec les mêmes sentiments qu'avant, et peut-être que j'irai danser sous la pluie cette fois, en oubliant le jour le plus déprimant de l'année, qui n'est en fait qu'une grosse arnaque. Alors restez tranquille vous aussi, les jours se rallongent petit à petit, le ciel se découvre et la vie va bientôt être plus douce. En attendant, cachez-vous dans les draps le plus possible et n'ayez pas peur du grand méchant Blue Monday parce qu'il n'existe pas.
Merci Margot pour cette chronique. Et maintenant que le Blue Monday n'a plus de secret pour vous, c'est le moment de terminer l'Info Club Sandwich. Je rappelle que l'émission est disponible en réécoute sur notre site internet. L'équipe de Radio Campus Amiens vous souhaite un très bon week-end, du repos et du courage pour les personnes qui travaillent. On vous dit à lundi pour une nouvelle semaine de quotidienne sur le 87.7 FM avec beaucoup de sujets musicaux. Et on se quitte avec cette fameuse chanson du Blue Monday. À lundi.